Dime que son los secretos de tu
Les Racines du Ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Cédric Chatelus. Recevons Paul Venn pour parler de l'initiation des mythes et des croyances dans l'Antiquité. Paul Venn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prof...
Merci.
Eh ben, c'est un plaisir, c'est moi qui suis ravi de vous accueillir. Vous êtes professeur honoraire au Collège de France, l'un des plus grands historiens mondiaux de l'Antiquité grecque et romaine. Vous avez publié de nombreux ouvrages, alors on connaît particulièrement les Grecs, ont-ils cru à leur mythe ? Question que nous allons aborder dans cette émission. Quand notre monde est devenu chrétien, un livre très important sur l'origine du christianisme et la conversion de l'Empire. Et puis vous venez de publier une nouvelle traduction de l'Énéide de Virgile, une coédition Albin Michel, Les Belles Lettres. Alors écoutez, je crois qu'avant de parler de l'Énéide, notamment avec Lélie Anvar, qui a lu votre traduction avec beaucoup d'intérêt. J'aurais aimé qu'on prenne un peu de temps pour réexpliquer un petit peu à nos auditeurs, parce qu'on se pose toujours la question, mais en quoi croyaient les Grecs ? Parce qu'effectivement, il y a toute cette mythologie foisonnante, ces dieux avec leurs histoires, leurs aventures qui semblent bien humaines. Est-ce qu'ils y croyaient, selon vous, à toute cette mythologie, à tous ces dieux auxquels ils semblaient rendre un culte ?
Distinguons bien deux choses. Ils croient à leur dieu. Par exemple, ils croient à Jupiter, Zeus. Ça ne veut pas dire qu'ils croient de la même manière aux nombreux amours de ces dieux. Mais enfin, ils croient aux dieux, ils leur rendent un culte. La religion consiste uniquement, non pas tellement à avoir des sentiments de dévotion, une vie spirituelle, mais qu'à exécuter ponctuellement ce qu'on doit faire, les rites. Un peu comme on ne demanderait pas à quelqu'un d'avoir des sentiments fervents pour son patron, mais de faire son boulot. Mais enfin, il demeure qu'ils ont des sentiments pour les dieux, moins ardents que la dévotion chrétienne, mais Aristote a tout dit en trois mots, « Nous aimons les dieux comme notre père et notre mère ». Pour la mythologie, c'est une autre histoire. Les lettrés savaient très bien que c'était des récits légendaires, faux. Et pour dire la vérité, la mythologie, les amours de Jupiter, de Hercule, tout ce que vous voudrez, c'était une littérature orale. Une littérature orale et bientôt écrite par les poètes et les lettrés n'y croyaient pas, et très tôt, tu t'y dis, n'y croient pas, alors qu'ils croient aux oracles, parce qu'ils croient aux dieux. Et quant aux gens du peuple, ils y croyaient que sans y croire, comment vous dire, un peu comme, disait un sociologue anglais, le prolétariat anglais croit aux horoscopes, aux oracles, du journal du jour, c'est-à-dire qu'ils y croient comme ça, et puis cinq minutes après, ils n'y pensent plus. Ils ne savent pas trop bien eux-mêmes. Les lettrés n'y croyaient pas, ils avaient une façon drôle de le dire, en disant, c'est quand même curieux, les déesses auparavant avaient sans arrêt des enfants d'un autre dieu ou d'un mortel, mais ils n'en ont plus, comment ça se fait ? Bon, ça se passait dans le temps des mythes, tout ça. Donc, vous voyez la demi-croyance, somme toute indifférente, des gens du peuple, mais ravis d'entendre des songes fantastiques, Jupiter se déguisant en taureau, enfin tout ce que vous voudrez, ou déguisant Io en vache. Mais enfin, ça n'occupait pas une place centrale. Ce qui est important, c'est de faire son boulot, je veux dire d'exécuter les rites, et d'aimer les dieux.
Et dans ce sens-là, dans le sens l'importance d'exécuter les rites, est-ce qu'on peut dire que la religion, comme un peu partout dans le monde, avait une dimension essentiellement politique, c'est-à-dire de créer du lien social dans la cité, parce que tout le monde accomplit à peu près les mêmes rituels, ou est-ce que ça avait aussi une dimension personnelle ? Est-ce qu'on peut parler d'une forme de spiritualité ?
Oui, il y a les deux choses. D'abord, pour être clair, ils avaient trois religions. Il y avait la religion des simples gens, c'est-à-dire les cultes privés, chaque maison a ses cultes à elle, et il y avait les cultes de la cité ou de l'État. Bien, ça s'appelait la religion des gens, la religion du citoyen. Deuxièmement, il y avait la religion des poètes, c'était la mythologie. Et troisièmement, il y avait la religion des philosophes, qui savaient que les dieux, c'est pas comme ça, et qui en donnaient une version
intellectualisée. Oui, ce qu'on connaît chez Platon, Aristote,
etc. Alors, voilà la distinction de base. Mais vous m'avez posé une question plus précise.
Non, c'était s'il y avait une dimension spirituelle chez les gens. C'est-à-dire, est-ce que c'était juste une dimension un peu sociale, si vous voulez, qui est nécessaire pour la vie de la cité ? Ou est-ce que les gens avaient une sorte de... étaient touchés personnellement et se posaient des questions, existentielles ?
Ils pouvaient l'avoir. C'est-à-dire qu'un citoyen peut s'enticher de tel ou tel dieu, avoir pour lui un culte tout à fait particulier, l'aimer personnellement, en faire une passion. Un peu, si vous voulez, comme dans le christianisme, les simples dévots, qui ne raffinent pas tellement sur la religion, pouvaient avoir un saint auquel ils se vouaient particulièrement.
Oui. Alors, il y a aussi la question des mythes aujourd'hui. On relie les mythes avec le regard de la psychanalyse notamment, ou de la philosophie moderne, et on se dit c'est d'une profondeur extraordinaire. On s'aperçoit que les mythes nous disent quelque chose de très très profond sur l'être humain. Est-ce qu'ils avaient conscience de ça ? Parce que évidemment, on se dit aujourd'hui avec le recul des sciences humaines et tout, on voit ça, mais est-ce que les gens, et je ne parle pas uniquement des philosophes les plus intellectuels, est-ce que ces mythes les aidaient à vivre ? Est-ce que c'était quelque chose qui leur parlait pour finalement donner du sens à leur existence ou à l'aventure humaine ?
Puis-je faire une réponse catégorique ? Non. Les mythes sont une littérature orale ou écrite auquel les gens du peuple croient à moitié. Moi, je veux bien que ça recèle de la psychanalyse, de la psychologie des profondeurs et toutes ces choses qu'on peut y voir. Mais enfin, on en dirait autant dans ces contes-là de n'importe quelle littérature, de n'importe quelle imagination. Les mythes n'ont pas pour métier de remplacer la philosophie. Simplement, les gens expriment en toute naïveté dans ces mythes des questions, des pensées, peut-être profondes, mais qui s'expriment aussi bien sous n'importe quelle autre forme. Il n'y a pas une particularité dans les mythes qui ferait d'eux, pour les primitifs, quelque chose de fondamental et de métaphysique. Non, je n'en crois pas un mot.
Lélie Envar, bonjour.
Bonjour. Oui, alors, peut-être que en effet, vous dites au point de vue du peuple, les mythes sont des histoires, comme oui. Aujourd'hui on se raconte des histoires. C'est presque la télé-réalité de l'époque, le mythe en quelque sorte. Mais cependant, est-ce qu'on peut mettre tout dans le même sac, à savoir quand même que nous avons des grands auteurs qui ont mis les mythes sous forme théâtrale, par exemple dans la tragédie. Oui. Et Aristote nous dit que la tragédie est quand même un moment très important du point de vue personnel pour celui qui va le voir, qui va assister à la représentation. Donc ce n'est pas seulement... Et il va donc se réapproprier le mythe, ça va lui faire une catharsis, ça va le faire avancer sur son propre cheminement. Donc, peut-être du point de vue d'Aristote, de Sophocle, de Ripide, voire même de Platon, puisqu'il a recours très très souvent au mythe dans ses dialogues, il y a quand même un au-delà du mythe. Le mythe a une fonction autre que simplement d'amuser le chaland, mais quand même bien de nous dire quelque chose de notre propre vérité.
Oui, ce que nous dit Aristote, c'est que quand on va voir une tragédie mythique, on y éprouve non pas des sentiments profonds ou des révélations sur soi-même ou en progrès de sa pensée, mais on y éprouve des émotions qui sont, il y en a deux, la terreur, Édipe a fait des choses horribles, il s'est crevé les yeux, et la pitié pour Édipe. Et il ajoute que ces émotions sont purifiées, ce qu'on appelle la catharsis. Ça ne veut pas dire que quand on éprouve ces émotions sous une forme imaginaire, par exemple le meurtre d'Édipe, ça vous purifie vous-même de l'envie de tuer. Et qu'en mettant les enfants devant la télé où il y a des scènes criminelles, ça les purifiera et ils se soulageront en imagination de leur envie d'assassiner. Non, ça veut dire tout simplement que comme le théâtre est une fiction, cette terreur et cette pitié ne sont pas quand même tellement bouleversantes. On n'est pas mort de peur comme si on était devant un drame réel. Les choses qui font peur ou qui font pitié apparaissent sous une forme fictive et pour ainsi dire un peu anodine, dépouillée de ce qu'elles auraient de terrible dans la réalité.
Oui, c'est vrai que c'est... Je trouve que c'est salutaire que vous nous disiez cela. Et en même temps, nous ne pouvons pas nous empêcher, nous, aujourd'hui, lecteurs de ces mythes et en particulier des grandes tragédies, de nous interroger sur leur... sur le fait que ces mythes continuent à nous émouvoir, à nous informer, à nous nourrir et à nous dire quelque chose de notre propre humanité.
Oui, et si vous permettez ici que je vous interrompe, oui, il y a quelque chose que je devrais ajouter et qui est en votre sens. Prenez Édipe, le malheureux est parfaitement innocent. C'est en toute innocence que rencontrant un malautru sur la route, il le tue, pratique usuelle à l'époque. C'est en toute innocence que trouvant une reine à épouser, il l'épouse. Il n'est pas obligé de savoir que l'homme qu'il a tué sans le savoir est son père et que la femme qu'il épouse, chose qu'il ignore, est sa mère. Ça nous prouve une chose sur la vie, mais une chose qui relève des sagesses de tous les jours. C'est qu'il nous arrive que juste au moment où nous croyons faire une chose qui va nous rapporter beaucoup, épouser une reine, ou qui est une chose qui est juste, tuer un malautru qui vous encombre la route, eh bien, au moment où nous sommes contents d'avoir fait une chose, c'est notre malheur que nous avons fait. Autrement dit, que les dieux semblent se plaire à nous mettre dans une situation impossible, fatale, au moment même où ils paraissent faire notre bonheur.
Oui,
c'est pas très réjouissant ce que vous nous dites.
Les dieux ou le hasard, c'est une leçon de la vie de tous les jours. Ah, il faut pas être trop ambitieux, vous savez. C'est peut-être votre malheur que vous trouverez si vous voulez devenir président de la République.
Oui, c'est pour lutter peut-être contre la démesure.
C'est la sagesse de tous les jours.
Oui, c'est lutter contre la démesure aussi. C'est-à-dire l'idée qu'il faut être à sa place, au fond. Il faut accepter le destin comme il est.
Oui, oui, oui. Et il faut pas essayer. En ce moment, ce serait important politiquement comme leçon. En ce moment même.
Et c'est vrai que, évidemment, le grand thème d'Œdipe, c'est l'idée que l'homme est aveugle sur lui-même, même si Œdipe à la fin volontairement se crève les yeux, c'est une façon symbolique de dire qu'il a été aveugle. Oui. Et c'est pourquoi je vous ai apporté ce court extrait en fait d'Œdipe roi de Sophocle, dans lequel Tirésias, qui est le devin en apparence aveugle, mais qui en réalité voit ce que Œdipe ne voit pas. Et vous nous en direz peut-être un mot sur cette question. Qu'est-ce qu'il voit, Tirésias ? À quel monde a-t-il accès pour pouvoir dire qu'il est le voyant, contrairement à Œdipe qui est aveugle, alors que, évidemment, Tirésias a perdu ses yeux. Et voici donc ce que Tirésias dit à Œdipe qui lui reproche de lui faire reproche. Œdipe ne sait pas encore ce qu'il a fait et il est à la recherche de l'assassin du roi de Thèbes. En fait.
Oui. Ah ouais, encore ouais. Quelqu'un qui veut faire quelque chose de bien et qui fait son propre malheur.
Voilà, c'est l'ironie tragique.
Oui.
Tu es le roi, mais tu dois m'accorder licence de te répondre en égal. J'en ai le droit. Je ne suis pas à ton service. Je suis le ministre de l'Oxias. Puisque tu m'as fait honte d'être aveugle, je te dirai ceci. Toi qui as tes yeux, tu ne vois ni dans quel abîme tu es tombé, ni où tu habites, ni de qui tu partages la vie. Sais-tu seulement de qui tu es né ? Des tiens, morts et vivants, tu es l'ennemi sans le savoir. Et bientôt, s'approchant pas à pas, terrible, et te frappant tour à tour par ton père et par ta mère, la malédiction attachée à ton sang te chassera du pays. Alors, toi qui as si bonne vue, tu seras dans la nuit. Où tes cris n'iront-ils pas demander asile? Quelle citéron ne les répercutera quand tu connaîtras le secret de tes noces et de ta maison et vers quel mouillage interdit tu as vogué, vent arrière? Tu ne pressens pas la multitude d'autres mots qui te révéleront ce que tu es, par toi-même et pour tes enfants. Après cela, couvre de boue Créon et mes prophéties. Jamais mortel ne sera le jouet d'un sort plus cruel que le tien.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie ce matin de Paul Venn. Nous parlons de l'initiation, des mythes, des croyances dans l'Antiquité grecque et romaine. Alors Lélie Anvar, vous venez de nous lire un texte de Sophocle. Vous souhaitiez rajouter un petit mot?
Oui, en fait, je voulais vous poser la question, Paul Venn, sur ce monde auquel Tirésias dit avoir accès. Qu'est-ce que pour un grec l'invisible, c'est-à-dire le monde qui n'est pas matériel, le monde dans lequel se déploient peut-être les mythes, le monde dans lequel certains héros de l'Antiquité peuvent aller, on en reparlera plus loin quand nous reviendrons sur l'Énéide. Donc est-ce que pour les Grecs, il y a un autre monde?
Non, les dieux et les hommes vivent dans le même espace, dans le même monde, respirent le même air, si j'ose dire, ont la même morale, même si les uns et les autres ne la respectent pas toujours. Les dieux sont simplement une espèce supérieure qui est née à un moment, qui a apparu à un moment, mais qui a la chance d'être immortelle.
Donc, au fond, vous nous dites qu'il n'y a pas de surnaturel pour les Grecs.
On peut appeler surnaturel les dieux, mais il faut bien voir que ce n'est pas un autre monde, comme pour les chrétiens, qui est une instance métaphysique supérieure, transcendante. Alors, non, il n'y a pas de monde transcendant, séparé.
Mais alors, où vivent les dieux ?
Mais dans le monde, au ciel.
Au ciel. Mais alors, qu'est-ce que le ciel pour les Grecs? Comment ils définissent le ciel?
Ça monte en haut, il y a des étoiles qui sont clouées. Et puis là-dedans, dans l'invisible, il y a le palais de Jupiter. Et les dieux sont toujours invisibles. C'est par hasard qu'ils apparaissent aux hommes, un bref moment, demeurant impalpable, toujours dans un nuage et de plus grande taille que les humains. Alors, et puis après, ils disparaissent.
Alors, ontologiquement, ça veut dire quoi, être invisible? C'est ça la vraie question.
Ils ne sont pas de la même nature que les hommes. Ils ne se montrent pas aux mortels.
D'accord, c'est qu'ils ne se montrent pas.
Mais ils ont un corps. La preuve, c'est qu'un guerrier presque scélérat est arrivé à blesser Aphrodite, Vénus, au poignet, dans une bagarre dans l'Iliade. Et elle a saigné, mais elle a saigné pas du sang, Aïma. Elle a saigné un sang spécial, le sang des dieux. Qui court, naturellement, ça ne lui a pas fait très mal. Mais enfin, les dieux ont un sang meilleur que le nôtre. Et puis, ils mangent, mais mieux que nous, du nectar de l'ambroisie.
Et alors, est-ce que les gens priaient les dieux? C'est-à-dire, est-ce qu'ils faisaient des demandes?
Oh oui. Mais on pouvait supplier les dieux. Mais enfin, ce qui vaut mieux, étant donné que les dieux sont aussi intéressés que les hommes, ils sont comme les hommes, sauf qu'ils sont immortels. Et ce qu'on faisait, c'est leur proposer un contrat. Écoute, Neptune, si tu me fais arriver sain et sauf et m'en tirer de cette tempête, je t'immolerai 3 bœufs blancs dès mon arrivée sur le rivage.
C'est très universel, hein. On voit ça dans toutes les religions, effectivement, c'est un échange.
C'est un échange.
Le don contre don.
C'est un contrat. Et si vous allez, par exemple, au musée archéologique de Nîmes, vous verrez plein d'ex-voto gravés sur pierre, où on prend à témoin sur pierre les dieux. C'est dédicacé, par exemple, à Apollon, m'étant exécuté de mon vœu avec reconnaissance. L'homme a sacrifié à Apollon le bœuf en question et il transcrit en refus un reçu sur
pour
pierre.
Acter, oui, oui.
Pour que le dieu n'oublie ouais. pas. Et puis d'ailleurs, comme au Japon, on leur fait signe. Si vous faites un vœu à un dieu, il faut lui dire « Neptune, ici, là maintenant, j'aurai besoin de toi ». On précise.
Et alors donc,
c'est d'un réalisme, si vous voulez, on ne peut moins transcendantal.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle le rite est si important? C'est-à-dire que le rituel est fait, en réalité, pour attirer le regard des dieux et l'aide des dieux
oui,
et leur soutien.
Oui, puisque les dieux n'exigent pas de vous de la morale. Ils vous demandent simplement de ne pas être un grand criminel. Et puis, bien qu'eux-mêmes soient loin d'être irréprochables, ils aiment les gens vertueux. Bon, la morale courante va de soi, pour eux comme pour nous, qu'on la suive ou pas. Mais les dieux aiment aussi quand on a ce supplément de vertu qui consiste par exemple à faire l'aumône, à ménager les suppliants. Là, on se fait bien voir quand on fait mieux que les exigences morales strictes, comme les hommes.
Est-ce qu'il existe un culte des ancêtres chez les Grecs et les Romains, comme on le trouve dans beaucoup de civilisations
oui,
à la même période?
Oui.
Avec des hôtels particuliers
oui,
dédiés aux ancêtres.
Une fois par an, on fait des cérémonies variables sur les tombes. Ça consiste surtout à déposer sur les tombes de la nourriture, comme pour nourrir les dieux. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Et ça consiste surtout à banqueter autour du tombeau de l'ancêtre.
Est-ce à dire donc qu'il y a une croyance profonde dans l'immortalité de l'âme?
Ils pensent que la croyance courante, sauf chez les lettrés, c'est-à-dire les riches qui ont reçu l'éducation, la croyance courante est qu'en effet, les morts sous terre continuent à vivre indéfiniment dans un état à demi ombreux. Ce sont des ombres, ils ne peuvent plus rien faire, pas faire grand-chose, ils se traînent.
Oui, c'est pas, enfin, c'est pas le paradis.
Non, c'est pas
c'est l'Hadès, c'est ce qu'on appelle les enfers, en fait, au sens où...
Oui, c'est pas du tout les enfers chrétiens.
Voilà, mais ils n'ont plus vraiment une jouissance, une connaissance des choses.
Ce sont des ombres vagues.
Voilà. Mais il y a quand même une croyance qui semble assez attestée chez les Grecs, c'est la métempsycose, la croyance dans une transmigration de l'âme.
Oh, elle est attestée parce que Platon en parle en ajoutant que c'est variable, c'est-à-dire qu'il y avait des sectes, et de temps en temps, mais enfin, si vous voulez, la métempsycose et les mystères, c'est aussi répandu que chez nous, telle ou telle secte.
Je veux dire, c'est très marginal.
C'est très marginal, seulement ça excite particulièrement les gens parce qu'ils s'imaginent qu'il y a des choses de sublimes, alors que ça pouvait être des balivernes sectaires, et parce que c'est plus excitant, évidemment, que la religion banale. Mais ça a une importance statistiquement très faible et rien ne prouve que ce soit des idées très élevées. Après tout, cette idée que quand les gens sont morts, c'est très matériel, la métempsycose. Quand les gens sont morts, les dieux infernaux récupèrent l'âme, qui est comme un souffle, la nettoient énergiquement avec du feu. Ça ne doit pas être marrant. Mais de toute façon, l'âme a complètement oublié qui elle fut. Elle a perdu tout souvenir, y compris sa personnalité. Ce n'est pas une immortalité de l'âme. Un très grand penseur, Plotin, écrit par exemple « Socrate ne sait plus qu'il était Socrate ». Il n'y a qu'un élucubrant comme Pythagore pour prétendre qu'il se souvenait de sa vie antérieure.
Mais vous savez que c'est ce que vous dites, ça rejoint pas mal ce que disent les orientaux, c'est-à-dire qu'au fond, qui croient effectivement très fortement dans la transmigration, ils disent « on oublie totalement qui on était ». Donc d'une certaine manière, il n'y a pas une véritable continuité individuelle. Même s'il peut y avoir des mémoires enracinées dans l'inconscient de vie antérieure.
Oui, eh bien c'est ça. On greffe l'âme sur un nouveau corps, exactement comme on greffe de nos jours un cœur ou un foie ou un rein à quelqu'un.
Tout à fait. Mais
c'est du remploi.
Et alors, par rapport à la question dans l'au-delà, je me souviens quand même d'un texte de Platon, je crois que c'est peut-être dans l'Apologie de Socrate, où Socrate, pour expliquer qu'il veut mourir, qu'il ne veut pas s'enfuir, il dit je préfère mourir comme ça pour avoir une vie vertueuse avec les dieux. Alors, qu'est-ce que Socrate peut imaginer vivre avec les dieux, en compagnie des dieux?
Je ne sais pas. Il pensait sans doute qu'il serait admis au rang des bienheureux, de même que la femme d'aîné tuée au moment de la prise de Troie est devenue une dame de compagnie de la déesse de Troie. Mais Platon dit lui-même, l'immortalité de dame, c'est une croyance qui a quelque chance d'être vraie. Kalos kindunos, ça veut dire en grec un pari où on a trois chances sur cinq de gagner. Cela dit, pour les détails, les enfers, comment c'est fait, tout, les bienheureux, aucun homme sensé ne peut prétendre en savoir quelque chose de sûr.
Oui, ça, c'est sûr.
Bien entendu, il convient, si on veut se faire une idée noble de Platon, de ne pas citer ces phrases.
Et alors...
Ah oui, il ajoute, seulement il faut se forcer à y croire. Il faudrait arriver par un tour de magie, par une incantation à y croire, parce qu'on serait plus vertueux. Oui, un peu comme un chrétien devient plus vertueux s'il a peur de l'enfer et croit au paradis.
Bien sûr, bien sûr.
Mais enfin, lui-même dit non.
Pour vous, Platon ne croyait pas vraiment...
Ah ben, c'est écrit en toutes lettres.
Parce que c'est quand même assez omniprésent dans ces dialogues, l'immortalité de l'âme.
Oui, parce que c'est une propagande utile. Mais quand il enseigne, il écrit en toutes lettres, affirmer des choses dans ce domaine ne relève pas d'un homme sensé. Cependant, il faudrait arriver à y croire comme par incantation, par magie, parce que ça nous rendrait vertueux. C'est se mentir à soi-même pour s'améliorer.
Oui, alors justement, vous venez de faire la transition. Je voulais faire le lien avec la question éthique, aussi bien chez les Grecs que chez les Romains.
Oui.
Pierre Hadot nous a... montrer que finalement la philosophie n'était rien d'autre qu'un ensemble d'exercices spirituels. Et qu'est-ce que les exercices spirituels, sinon des moyens, d'une part, de mieux se connaître et d'autre part, de devenir plus vertueux, ultimement pour être plus heureux. Alors comment articuler cette éthique très, très forte, qui est quand même très, qui tient vraiment les philosophes aussi bien grecs que latins, avec précisément cet ensemble de croyances qui, d'après ce que vous dites, est une croyance plutôt légère. Enfin, ce n'est pas une croyance rivée à l'âme, si j'ose dire. Donc, comment ils articulent ou ils justifient tout simplement la nécessité d'une vie vertueuse avec cet ensemble de croyances auxquelles ils ont eux-mêmes du mal à croire?
Eh bien, la réponse est qu'ils ne l'articulent pas. Ce qui tenait la place qu'occupe dans le christianisme la piété, la religion, la foi dans la vie intérieure, à cette époque, la religion ne suffisait pas du tout à la remplir. C'était la philosophie, c'était l'adhésion, non pas à des mystères, à tout ça, mais à une secte philosophique qui occupait la vie intérieure, qui obligeait à une certaine morale et même à une certaine façon de se vêtir de tout. On se convertissait à une philosophie. La philosophie n'était pas une matière universitaire ou la satisfaction d'une curiosité sur le secret des choses. C'était une façon de vivre. La façon de vivre était philosophique et non religieuse. La philosophie occupe la place importante qu'occupe depuis le christianisme la religion.
Oui, c'était la philosophie qui était le lieu de la vie intérieure, de la progression.
Le lieu de la vie intérieure, de la progression, l'examen de conscience.
Tout à fait.
Ce n'est pas dans la religion, c'est dans la philosophie. Ça, Hadot l'a bien montré.
Alors, il y a quelque chose, deux, trois fois, vous avez évoqué les mystères. On sent bien que vous n'avez pas beaucoup de sympathie pour les cultes à mystères. C'est quand même quelque chose d'important, parce que même si ça touchait qu'une élite, on sent bien qu'il y avait des gens qui étaient insatisfaits de la religion, justement, qui trouvaient peut-être que la philosophie n'était pas suffisante et qui cherchaient dans les cultes orientaux, notamment les cultes à mystère, une initiation qui puisse leur donner une sorte de choc, une transformation intérieure rapide à travers les fameux cultes à mystère. Est-ce que vous pouvez quand même nous en dire un mot?
Je pense que le choc est certain. La transformation, j'en doute fort, c'était surtout l'appartenance à quelque chose de privilégié et à la connaissance de choses que les autres ne savaient pas. c'était, si vous voulez, avoir une supériorité, entrer dans un secret. Mais ce n'est pas du tout un moyen d'amélioration et de tout. La preuve, c'est qu'il faut être vertueux pour être admis au mystère. Ça a été le drame. Néron, empereur, arrive à Athènes, mais on lui a conseillé de ne pas se faire initier à Eleusis. Et comme il avait tué sa mère,
c'était
ça
délicat.
Pouvait poser des problèmes. Ouais. Non. On cherche dans les cultes à mystère de participer à des secrets que les autres n'ont pas et d'avoir eu une émotion et d'être plus proche de certains dieux, les dieux des mystères, les dieux d'Eleusis par exemple. Mais je ne crois pas qu'il faille chercher là-dedans ni des sublimités philosophiques et ni des sublimités morales.
Non,
c'est le sens du privilège.
Vous avez certainement raison, mais je pense qu'il ne faut peut-être pas négliger aussi l'aspect émotionnel. C'est-à-dire que le mystère,
ah,
c'est...
Ben, il suffit d'arriver maintenant encore à Eleusis. Ils ont fouillé la grande salle d'initiation. On est saisi par quelque chose.
Voilà, il se passe quelque chose dans le corps.
Vous savez en quoi ça consiste pendant 3 jours?
Racontez.
Ils entendent des paroles mystérieuses, tout ça se passe dans le noir, qui leur révèlent des secrets que personne ne sait sur les dieux et qu'il est interdit de répéter, bien entendu. Et effectivement, nous ne les connaissons pas. Le secret a été totalement gardé. Et puis ensuite, ils assistent à des spectacles, ils voient des choses extraordinaires. C'est l'initiation dans un monde réservé à de rares élus, où on apprend des choses que les autres ne savent pas et où on voit de près des choses sublimes et des dieux avec lesquels les autres n'ont pas cette intimité.
Mais cette idée-là, on l'a retrouvée dans la franc-maçonnerie, par exemple, dans le monde moderne, vivre une initiation secrète.
Les mystères, c'est aussi bêta qu'une initiation franc-maçonnique. C'est pas les
sublimités. Bon, ça, c'est un jugement de valeur.
Mais c'est le mot mystère qui excite les gens. Ils s'imaginent qu'il va y avoir, alors que c'était des balivernes.
Cela dit, peut-être que dans les mystères et dans la mise en scène des mystères,
oui,
je reviens sur cette idée-là, il y avait certainement effectivement cette part où on est dans l'obscurité, cette part, quelque chose qui touche le tréfonds de l'âme et qui devait l'ébranler et peut-être la mettre dans un état, on en avait parlé avec François Roustan, de modifier de conscience, dans lequel l'individu n'est plus dans ce contrôle rationnel et qui le fait basculer comme dans le chamanisme, comme dans tout ce qui est la recherche de la transe finalement, dans un état dans lequel on n'est plus dans le contrôle rationnel et peut-être que ça ouvre quelque chose au niveau de la profondeur de l'être humain et qui le fait basculer vers un autre état d'être.
Mais je pense que c'est le cas chez nous de tout secte du même genre.
Enfin, secte ou religion.
Oui, secte religieuse. Oui, je pense que les gens qui adhèrent à telle secte, j'en connais pas. Et j'ai simplement adhéré à la secte communiste qui est laïque.
Oui, on vous sent pas très religieux dans le fond de votre âme.
S'il s'agit du christianisme, j'en parlerai d'une toute autre manière. Si je vous parlais de Sainte Thérèse d'Avila.
Ah, vous êtes un lecteur Sainte Thérèse.
Oh.
Bon, on vous réinvitera pour parler de Sainte Thérèse alors.
Oui, mais c'est quand même, sans parler de Sainte Thérèse d'Avila, c'est quand même une grande mystique. Enfin, elle est quand même dans le mystère de Sainte Thérèse d'Avila.
C'est une femme de génie.
Oui, mais alors, justement, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites et qui nous relie à notre actualité, c'est que vous nous dites en somme que les antiques nous ressemblaient beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même mis de côté tout l'aspect superstitieux des religions, on a mis de côté tous les rituels des religions pour ne plus s'attacher qu'à ce que les religions nous apportent pour un mieux-être philosophique, pour un enseignement philosophique.
C'est pas ou une émotion.
Ou une émotion, éventuellement.
Parce que si on regarde le succès des évangéliques, etc., c'est la recherche de l'émotion.
Oui, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des gens comme Marcel Conche, comme André Comte-Sponville, sont des gens qui sont habités par cette vision-là d'une vie spirituelle. Alors, il faudrait peut-être mettre des guillemets ici à la spiritualité, qui est tout simplement un mieux-être dans le sens devenir meilleur, devenir plus vertueux, dans le sens vraiment philosophique du terme, en laissant de côté tous les oripeaux de la superstition et de la religion. Est-ce que vous diriez que nous sommes finalement dans un siècle païen, beaucoup plus proche de l'Antiquité ?
Actuellement ?
Oui.
Si vous tenez compte de la déchristianisation avancée, oui, mais ça se rattrape de l'autre côté et d'une façon beaucoup plus médiocre, par les sectes et par les religiosités, les petites religiosités protestantes, oui. Mais je ne crois pas que le souci de devenir meilleur ou heureux est joué. Je crois que pour les sectes antiques et pour les religions à mystère, c'était la recherche d'un élitisme et de l'émotion, pas de la vie intérieure.
Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel en compagnie de Paul Venn. Nous parlons d'initiation, des mythes, des croyances dans l'Antiquité. Et vous venez de publier une nouvelle traduction de l'Énéide de Virgile, une coédition Albin Michel, Les Belles Lettres. Alors, Lélian Var, vous avez lu cette traduction. Qu'en avez-vous pensé ?
Alors, j'en ai pensé le plus grand bien parce que le style est tout à fait étincelant. On voit que vous êtes dans un rythme comme ça, virgilien, et bien que ce soit de la prose, je dirais que c'est une prose poétique. Donc vous avez vraiment rendu, surtout ce que j'aime énormément, c'est votre rendu de l'ombre et de la lumière chez Virgile, c'est-à-dire de ce passage des métaphores, cette façon métaphorique d'aborder les concepts et aussi bien l'histoire. Mais je voulais quand même vous poser la question, pourquoi, vous en expliquez dans l'introduction, mais pour nos auditeurs peut-être, vous pourriez nous dire quelques mots sur la raison pour laquelle vous avez eu envie de retraduire cette Énéide, qui a déjà été traduite plusieurs fois, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Pourquoi redonner une nouvelle traduction ?
Parce que j'aime ça depuis 60 ans et que c'est une des plus belles écritures poétiques du monde. Et ensuite, parce qu'il faut refaire les traductions tous les 30 ans, parce que le progrès de la science existe. Par exemple, le travail considérable qu'ont fait depuis plus d'une génération les Oxfordiens et aussi quelques gens de Cambridge fait qu'une fois tous les deux pages, il faut corriger les traductions françaises antérieures.
Oui, et donc vous l'avez corrigé. Et en même temps, c'est sous-tendu par une idée sur le genre, sur la littérature, puisque vous nous dites que l'Énéide doit d'abord être un plaisir de lecture. Alors moi, j'y vois évidemment le roman initiatique, on va y revenir, mais vous plaidez en faveur d'abord du plaisir. Simplement de lire l'Énéide comme un roman d'aventure qui donne du plaisir.
Parce que c'est beau. Le beau est ce qui plaît. C'est très beau. J'ai eu du plaisir continu à traduire une langue aussi belle. Et je crois que d'ailleurs, les gosses de la classe de quatrième, enfin, quand on faisait du latin, sentaient chez Virgile quelque chose de très beau. Oui, c'est tout le temps très beau. Je parle de la diction, de la poésie. Par ailleurs, il y a la nature amusante du récit. Ce n'est pas une épopée. C'est une héroïque fantaisie, ou fantaisie, je ne sais pas comment. Fantaisie. Je lis l'anglais, bien sûr, mais je ne sais pas le prononcer. C'est une héroïque fantaisie qui se passe pour les Romains dans ce qui était pour eux l'Antiquité, et une Antiquité mythique, où Énée est le fils de la déesse Vénus, qui lui apparaît 3 ou 4 fois, mais il ne peut pas l'attraper parce qu'elle sera impalpable.
Et alors, puisque vous êtes...
Et tout est fantastique, c'est un récit fabuleux. C'est un récit fabuleux, et pour dire les choses jusqu'au bout, qui est construit comme, filmiquement, comme un scénario très construit, où se succèdent rapidement les épisodes les plus variés et qui jamais ne traînent. C'est une construction de film bien fait.
Oui,
pour aller jusqu'au bout, je prétendrai que le chant 10 est un western.
Oui, vous utilisez beaucoup de métaphores, effectivement, filmesques ou filmiques, pour décrire l'Énéide.
Pour décrire le rythme.
Exactement. Donc, allons jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous donner le pitch de l'Énéide ? Donc, l'histoire.
Le pitch, c'est le résumé de l'histoire.
Le résumé de l'histoire.
Je commence comme Virgile ou dès le début ?
Non, juste simplement nous dire ce que nous raconte l'Énéide.
Voilà. Bien qu'elle commence in medias res, en plein milieu, comme un film bien fait, il se passe ceci. Troie est en pleine gloire. Elle est assiégée par les Grecs qui n'arrivent pas à la prendre. Mais le cheval de Troie, dont l'histoire est racontée en détail, fait que les Grecs entrent dans Troie, prennent la ville, la saccagent. Une poignée d'hommes de toute catégorie, sous la conduite d'un des héros, qui n'est pas Hector tué, mais aîné, arrive à fuir et décide de partir ailleurs, fonder une ville. Ils vont donc faire la traversée de la Méditerranée, depuis la côte turque, jusqu'en Bulgarie, puis en Crète, puis ils arriveront en Sicile. Et ils apprennent plus ou moins vaguement, Aîné ne le sait qu'à moitié, il faudra qu'il ait une révélation pour en être bien sûr, Aîné sait à moitié qu'il a un but, une terre au bout de l'Occident, elle s'appelle Hespéria, l'Ouest, qui s'appelle aussi l'Italie, dans la langue du pays, et que là, il devra fonder une ville, une petite ville. Et de cette ville sortiront des années après, le plus grand empire qui soit au monde, qui s'étendra de l'Andalousie à l'Afghanistan et de là au Maroc.
Il s'agit de Rome,
une gloire énorme attend ses descendants. Bon, mais enfin, elle n'est pas tellement sûre, il n'en est pas pénétré. Il faudra qu'il soit initié de la manière qu'on verra. Et le voilà donc qui entreprend. Ils fondent une première ville en Bulgarie, ça ne marche pas. Ils fondent une seconde en Crète, l'épidémie les chasse. Il arrive en Sicile parce qu'il faut bien faire escale et qu'il a là un ami. Et au moment où il quitte la Sicile pour aller en Italie, une tempête qui n'est pas innocente, qui est voulue par la méchante Junon, une tempête les chasse à Carthage, ville qui vient d'être fondée, par une reine supérieure de génie, de beauté et de tout, qui s'appelle Didon. Et puis, Aîné, évidemment, devient l'amant de Didon dans une grotte. Ils sont tous deux seuls dans une grotte. Au cours d'une partie de chasse, l'orage les réfugie. C'est le moment qui fait battre le plus fort le cœur des élèves de quatrième, si le professeur leur fait traduire. Et bon, il devient l'amant de la reine Didon. Il se dit que somme toute, puisqu'il voulait fonder une ville, elle est déjà moitié fondée. Et Didon la lui offre. Bon, il va rester là. Et il est là, il est très bien installé. Il a un très beau manteau carthaginois. Seulement, les dieux ne sont pas contents parce que les dieux, ils tiennent absolument à ce qu'on fonde Rome. Alors, Jupiter envoie Mercure dire à Aîné, non, ça ne marche pas, ça, il faut que tu partes. Alors, Aîné part. Il arrive finalement dans l'Latium, dans la région de la future Rome, où il fondera une petite ville qui sera la mère de Rome 300 ans plus tard. Mais pour ça, il doit supporter 3 semaines de guerre qui occupent la deuxième partie du roman. Et puis, il est vainqueur à la guerre, il tue le chef ennemi et il devient co-roi du pays. Et puis, il fonde sa ville. De cette ville, il y aura beaucoup de descendants. Et certains de ses descendants s'appelleront Romulus et Rémus, et nourris par une louve, ils fonderont Rome, et ce sera le début de l'Empire mondial à qui Jupiter a promis qu'il existerait éternellement.
Et là, on voit que le destin n'est plus comme le destin oedipien, c'est-à-dire un destin contraire, aveugle, qui frappe l'innocent, mais bien un destin qui est voulu pour Aîné, et pour, évidemment, le futur empire de Rome. Et que finalement, Aîné traîne un peu le pied, si j'ose dire, pour assumer ce destin. Et en ce sens, c'est bien un roman d'initiation, c'est-à-dire qu'il a une mission à accomplir et qu'il va passer par des tribulations, par des doutes, par des hésitations, par des divertissements, parce que, dis donc, c'est quand même un moment où il s'égare, si j'ose dire, par rapport à son destin.
Son père lui reprochera.
Donc, on peut vraiment dire qu'effectivement, c'est un roman d'initiation dans le sens plein du terme. Alors, on peut donner à cette initiation un sens spirituel ou pas, mais néanmoins, on ne peut pas imaginer roman d'initiation plus complet.
Je dirais plutôt roman d'éducation. Mais enfin, laissons les nuances, initiation. Aîné n'a conscience que peu à peu de sa mission. Et à vrai dire, c'est un héros à mission. Il y a deux genres de héros, mais je crois que je l'ai déjà expliqué 100 fois. Il y a les héros à exploit. Ils tuent leurs ennemis, ils séduisent toutes les femmes. Il y a les héros à mission qui ont une chose à faire. Les héros à mission ne peuvent pas être amoureux. Vous n'imagineriez pas De Gaulle devenu en 40-44 l'amant de la reine d'Angleterre. Il a autre chose à faire, il a sauvé la France.
Ou Jésus, il a sauvé le monde.
Héros à mission, restez vierge.
Et l'autre...
Alors, le résultat, c'est que les amours de Didon, qui est follement amoureuse, et d'Aîné sont de la part d'Aîné glaciaux. Il n'est pas dans le rôle. Bon, mais enfin, l'important n'est pas là. Puisque vous tenez tant aux initiations, on va raconter celle-là. Aîné a appris par des devins qu'il devait se rendre aux environs de Naples, dans la ville de Cume, et que là, il rencontrerait une devineresse, la Sibylle, comme les Sibylles de la Sixtine de Michel-Ange, et que son père lui apprendrait toutes sortes de choses sur son avenir. Alors il obéit, et il débarque à Cume, il descend dans les enfers, il traverse à pied les enfers. C'est, je pense, la partie la plus spectaculaire et une des plus belles de toute l'Énéide. Naturellement, dans ces enfers, il y a des choses auxquelles personne ne croit. Le centaure, il y a des centaures, il y a Charon qui fait passer en barque, il y a le chien Cerbère à trois têtes, enfin, toute la mythologie. Mais l'important n'est pas là. C'est qu'il arrive dans le champ des bienheureux parce que son père n'est pas une ombre vaine comme les autres qui se traînent. Il vit dans la prospérité, il fait des pique-niques dans des bocages, grâce à un soleil qui ne vient pas du ciel, ça se retrouvera chez Dante et chez Baudelaire. Et son père alors lui dit « Ah mon fils, tu m'as bien obéi, tu es venu me revoir. Non, tu ne peux pas m'embrasser, je suis impalpable, tu n'as pas le droit. Mais je vais t'apprendre ta destinée. Tu vois, ces âmes, elles vont remonter sur terre. Mais enfin, comment peut-on vouloir revivre dans un corps mortel alors que la vie est si pénible d'y aîner, qui n'a nullement envie de réendosser la chair humaine pour subir des naufrages, des femmes qui vous encombrent l'existence et tout le tremblement. Tu verras ça tout à l'heure, lui dit son père, viens voir, regarde. Ces âmes vont remonter sur terre. Ce sont les âmes de tes descendants. Et alors arrive, à un âge adulte, et non pas sous forme de bébé, et en costume d'époque, de la future époque, tous les futurs héros de Rome, jusqu'à Jules César et l'empereur vivant du temps de Virgile, Auguste compris. Et il lui explique tout ça, il lui dit qu'il va fonder le plus grand empire qui soit au monde, qui a un sens de l'histoire. Le destin là, devient un sens de l'histoire, comme chez Marx. Du coup, Aîné se dit « Ah, mais alors, ça vaut la peine de vivre. » Alors qu'il avait dit expressément, quelques vers auparavant, « Comment peut-on aspirer à revenir sur Terre? C'est si pénible. » « Oui, ça vaut la peine de vivre, dit-il. » Et il sort.
Et c'est vrai que cette histoire de vie et de mort est absolument centrale dans l'Énéide. C'est-à-dire, s'il y a un thème qui revient tout du long, s'il y a un fil qui est attiré, c'est précisément la question de la mort. Puisqu'il y a la mort de ses compagnons, il y a l'importance du rituel qu'on doit rendre aux morts, qu'on retrouve aussi d'ailleurs avant, par exemple, c'est le problème d'Antigone avec son frère Polynice. Donc toute cette question de ce qu'il faut faire des morts, le culte qu'il faut rendre aux morts, qui est si important. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la vie? Et en effet, ce passage aux enfers est absolument magnifique. Et donc, d'ailleurs, j'avais choisi cet extrait à lire que vous venez de résumer. Et c'est effectivement Anchise qui initie son fils aux réalités des enfers et qui lui explique comment les âmes sont nettoyées.
Oui, vous avez tout à fait raison. Je dois dire qu'après la sortie des enfers, aîné est complètement transformé, il n'a plus qu'un but, c'est de fonder la ville qu'il doit fonder, c'est devenu un vrai chef, responsable, etc.
D'accord. Au jour ultime, lorsque la vie les a abandonnés, ces malheureuses ne sont pas radicalement débarrassées de tout leur mal, de tout leur miasme. Inévitablement, ces concrétions longuement formées ont des racines étonnamment profondes. C'est pourquoi des peines tourmentent ces âmes, des supplices leur font payer leurs maux invétérés. Les unes sont suspendues et exposées aux vents impalpables, pour d'autres, au fond du vaste gouffre du Tartare, le crime qui les infecte est emporté par lavage ou consumé par le feu. Nous subissons chacun nos mânes. Après quoi, on nous fait passer par le vaste Élysée, et seuls quelques-uns d'entre nous restons en ces campagnes riantes. Jusqu'à ce qu'une fois achevée, cette longue journée qu'est le cycle du temps, est extirpée la tâche criminelle invétérée et laisse la pensée céleste en sa pureté, le feu d'en haut en sa simplicité. Toutes les âmes que voici, lorsqu'elles ont vu tourner la roue du temps pendant 1000 ans, le Dieu les appelle en longue file sur la berge du Léthé, afin qu'ayant évidemment tout oublié, elles aillent voir de nouveau la voûte céleste et se mettent à désirer revenir dans un corps.
Cette émission se termine. Paul Venn, je voulais signaler également la publication. Vous aviez publié chez Albin Michel Mon musée imaginaire. C'est donc un musée des chefs-d'œuvre de la peinture italienne que vous avez choisi et commenté. Et je signale la publication de la version numérique pour iPad et iPhone de ce musée imaginaire, une promenade parmi les chefs-d'œuvre de la peinture italienne du XIIIe au XVIIIe siècle, à la lumière de l'histoire sainte et de l'Antiquité romaine. Merci beaucoup, c'était un plaisir et je renvoie évidemment à votre livre
L'Énéide
de Virgile chez Albin Michel et Les Belles Lettres, dont on a lu à l'instant un extrait. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, nous parler de la religion et de l'initiation chez les Grecs et les Romains.
Merci, moi qui vous remercie et qui remercie madame.
Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. La semaine prochaine, nous aurons la joie de recevoir Christian Bobin pour parler de la confiance. Dans quelques instants, vous retrouvez le journal de 8h. Très bon dimanche à tous. Oh.